seven, six, five, four, three, two, one.
The world is going and everything in it.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
L'Europe a inventé le roman, l'avion et le cinéma. Donc, l'Europe a inventé tout ce qui permet à l'homme de bouger, de dépasser les frontières et de vivre dans le monde.
La guerre mondiale dans le monde, ça continue, c'est quand même, il faut le dire, un petit peu le stand-by total.
Il regarde le monde tourner, un globe trottage à contre-courant, en compagnie de Thomas Lacombe.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est le quatrième numéro pour Il regarde le monde tourner, et une fois par mois, eh bien, je vous propose de partir pour un tour du monde insolite, parce que oui, souvent, le monde est fou. Et je vous emmène en Australie d'abord, où une étude ethnographique très sérieuse vient d'être publiée. Rebecca Roussy en est l'auteur, c'est une chercheuse australienne en psychologie cognitive. Eh bien, cette étude nous dit que notre position dans l'ascenseur n'est pas un hasard. Et non. Nous aurions une façon bien spécifique de nous comporter dans un ascenseur respectant, sans forcément le savoir, hein, une hiérarchie et une attitude propre à notre sexe et à notre statut social, rien que ça. Et là, je suis sûr que vous êtes tout comme moi en train de vous demander « Mais qu'est-ce que je fais, moi, dans un ascenseur ?» Alors, pour mener son étude sociologique et ethnographique, publiée dans Ethnography Matters, Rebecca Roussy a observé les ascenseurs de deux des plus grands buildings d'Adélaïde, en Australie. Et c'est en regardant 30 voyages en ascenseur que des similitudes dans le comportement des employés lui sont apparues. Ainsi, les hommes plus âgés ont tendance à se placer dans le fond de la cabine, dos au miroir et donc face aux portes. Les hommes plus jeunes se tiennent juste devant eux. Quant aux femmes, tout âge confondu, elles occuperaient la première rangée de la cabine. Alors, autre attitude envers les autres qui diffère selon le sexe dans l'ascenseur, eh bien les hommes, dans leur majorité, posent les yeux sur les boutons. Mais ils jettent aussi des regards fréquents aux miroirs latéraux, ben oui, pour s'admirer, ainsi qu'aux miroirs leur faisant face afin de regarder les autres personnes présentes, un peu voyeurs, quoi. Les femmes, au contraire, elles fixent les boutons et elles évitent tout contact visuel, à moins qu'elles n'aient une conversation en cours. Et contrairement donc aux idées sexistes reçues, en ascenseur, les femmes ne se regardent pas dans les miroirs, sauf lorsqu'elles voyagent exclusivement avec d'autres femmes, ou seules, ce sont les hommes qui se mirent. Dis-moi ce que tu fais dans un ascenseur, je te dirai ce que tu es.
J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors, les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec.
Bon, alors un ascenseur, il y en a un, forcément, au Burj Dubaï, où je vous emmène maintenant, vous savez, la plus haute tour du monde, et c'est 828 mètres. Faudrait pas qu'il tombe en panne. Après, peut-être qu'on n'y entend pas ce titre de Calogero qu'on entendait à l'instant et que vous aurez reconnu en apesanteur. Alors, en réalité, je me suis renseigné. Si vous voulez tout savoir, pour la circulation interne dans le Burj Dubaï, il y a un total de 8 escaliers mécaniques et 57 ascenseurs, donc il y en a bien un qui peut tomber en panne. Et il y en a même qui sont à double pont. Alors, pour les connaisseurs, ça dirait quelque chose. Pour moi, ça ne dit rien. Et l'ascenseur le plus rapide, en tout cas, il peut atteindre en montée et en descente 40 km/h. Oui, C'est presque une sensation forte. Mais non, c'est pas un numéro spécial actualité des ascenseurs sponsorisés par Otis. C'est un numéro spécial actualité insolite. Et on va rester tout près du Burj Khalifa, l'autre nom de ce gratte-ciel géant, puisque c'est à Dubaï, cette ville des Émirats Arabes Unis, que je vous convie maintenant. À Dubaï, où le moins qu'on puisse dire, c'est que le mot crise, eh ben, ils connaissent pas. Ben ça, on le savait déjà, hein. Rien qu'à voir ces projets pharaoniques. Je parlais du Burj Khalifa à l'instant. On se rappelle aussi de la construction de cet archipel de 300 îles représentant un planisphère et abritant hôtels de luxe et résidences secondaires. Bref, à Dubaï, c'est un peu comme dans la chanson du grand Alain, alias Shumbaba.
Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil. Des trésors satinés, dorés à souhait.
Et donc, tout naturellement, dans cette oasis de prospérité et du luxe, cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise, eh bien, les policiers ne se déplacent pas en Renault. Ben oui, non. Mais en Lamborghini et en Ferrari, rien que ça. La Ferrari FF a été confiée à la brigade féminine de la police de Dubaï et elle doit servir à patrouiller dans les zones touristiques de la ville. Et la Lamborghini Aventador, quant à elle, eh bien, elle a été affectée à la brigade masculine. Et ne me demandez pas s'il est avéré que Ferrari fait plus féminin que Lamborghini. En tous les cas, l'une comme l'autre, eh bien, elles ne vont pas être utilisées pour pourchasser les fous du volant. Nombreux, d'ailleurs, sur les routes périphériques de Dubaï, non. Cette tâche, elle revient à des unités équipées de puissantes Camaro du constructeur américain Chevrolet. Bah oui, rien que ça. Non, nos Lamborghini, nos Ferrari, enfin plutôt leur Lamborghini, leur Ferrari, elles servent à contrôler et patrouiller dans les quartiers touristiques et huppés de cette grande ville. Et d'ailleurs, l'introduction de ces véhicules de luxe, que ce soit Chevrolet, Lamborghini ou Ferrari, c'est un peu du bling-bling, évidemment. C'est un signe de santé pour Dubaï, qui avait connu, pourtant, fin 2008, une crise économique après la chute brutale de l'immobilier. Là, avec cette introduction de véhicules de police de luxe, les Émirats Arabes Unis veulent montrer qu'ils sont de retour. Bref, un peu de bling-bling dans le désert.
Et puis, plus loin des chiens, des chants de repentance et quelques pas de deux et quelque part de danse. Et la nuit des soumises et l'Alysée se brise aux marquises.
De Dubaï, je vous emmène maintenant aux îles Marquises, où Jacques Brel, que l'on écoutait à l'instant, résida à partir de 1974 et enregistra son dernier disque, Les Marquises, dont voici l'extrait éponyme, avant de mourir donc, et il y est enterré même aux Marquises. Eh bien, de Dubaï aux Marquises, on change de moyen de locomotion, on quitte, oui, on quitte les Lamborghini, les Chevrolet, les Ferrari, c'est bling bling, et je vous emmène en pirogue à voile, mais attention, pas n'importe laquelle, une pirogue à voile de 12,5 mètres de long, qu'un Polynésien et son ami cuisinier ont décidé fin avril d'emprunter pour quitter le port de Bayonne pour relier les îles Marquises. Ce qui consiste tout de même à traverser rien moins que l'Atlantique, puis le Pacifique, en empruntant le canal de Panama, sur une embarcation pour le moins insolite hein, quand même. Hein. Et les voici donc partis pour 4 mois, en passant par l'Espagne, le Portugal, la Guadeloupe, le Venezuela, la Colombie, le Panama, l'archipel des Galapagos, puis, et c'est là surtout que le bât blesse, 25 longues journées de haute mer pour atteindre les Marquises, et vogue la galère, comme le chante le groupe bordelais El Caos.
Tu me tiens, tu passes ton temps à te frotter les mains. Galère, galère, lâche-moi la grappe. Sors de mon chemin, mon que je t'éclate. Galère, galère, quand tu me tiens, tu passes ton temps à te frotter les mains. Galère, galère, lâche-moi la grappe. Sors de mon chemin, mon que je t'éclate.
Alors, si vous avez bien suivi le petit parcours de notre Polynésien, il va passer au large de l'Espagne où, la semaine dernière, environ 32,38 tonnes de haschich ont été saisies. Là aussi, ça va en intéresser certains, pour une valeur marchande d'environ 50 millions d'euros. Mazette, camouflée dans un camion provenant de Tanger, derrière deux palettes de cajots de melon en provenance du Maroc. Alors, ouverte sur l'océan Atlantique, voisine toute proche du Maroc via le détroit de Gibraltar, là c'était un peu pour la géographie pour les nuls. L'Espagne, elle est la porte d'entrée des cargaisons de drogue pour toute l'Europe. Et en 2012, l'Espagne a saisi 20,7 tonnes de cocaïne, 24,9% de plus qu'en 2011, et 325 tonnes de haschich. Donc c'est une grosse prise qu'a fait la semaine dernière la police espagnole. Et puis la prochaine fois, on peut avoir ce conseil pour messieurs les dealers et autres contrebandiers. Pensez donc à cacher votre marchandise directement dans les melons.
Le toxicomanie. Quelle tragique manie.
Chanson de circonstance à l'instant à la toxicomanie du lyonnais Benjamin Biolay. Et quand on abuse de substances illicites, celles que l'on trouve dans les melons marocains, saisies en Espagne ou, plus classiquement, dans un petit sac en plastique, vous voyez ce que je veux dire, eh ben on peut voir, oui, on peut voir des moutons phosphorescents. Eh bien, si vous en voyez en Uruguay en ce moment, ne vous alarmez pas, personne n'a glissé dans votre verre quelques hallucinogènes, non. Un groupe de scientifiques uruguayens en partenariat avec l'Institut Pasteur de Montevideo a annoncé, il y a 2 semaines, la naissance d'animaux génétiquement modifiés, des moutons phosphorescents. Leur spécificité, ils l'attirent du gène d'une méduse introduit dans leur ADN et rendant possible la transformation. L'opération, elle n'a pas de but en soi, vous l'aurez compris, si ce n'est de vérifier l'efficacité de la méthode d'introduction d'un gène étranger dans l'ADN de ces animaux. Oui, bah oui, quand même, il y a quelque chose de sérieux. Les chercheurs, ils étudient, par exemple, la possibilité de prendre un gène responsable de la production d'une protéine manquante dans certaines pathologies humaines. Un exemple, eh bien l'insuline, dans le cas des diabétiques, évidemment. Le gène en question, il serait alors incorporé dans l'ADN d'une brebis qui, à sa naissance, le produira dans son lait. Et selon eux, il serait ainsi possible d'isoler cette protéine pour fabriquer des médicaments plus facilement qu'avec les méthodes actuelles. Les moutons phosphorescents, d'ailleurs, ce n'est pas les seuls animaux génétiquement modifiés dans la région, en Amérique du Sud. Une vache transgénique produisant des protéines humaines dans son lait avait été créée en Argentine en 2011. Et évidemment, au Brésil, enfin je dis évidemment parce que les transformations, on connaît ça au Brésil, mais là c'était des chèvres génétiquement modifiées qui produisent également des protéines à usage humain qui avaient été créées il y a quelques années de cela. Brebis phosphorescentes et vaches réfrigérateurs à protéines humaines, définitivement, les fermes en Amérique du Sud ont des airs de science-fiction. Alors, on se souvient tous de sa robe en viande. Peut-être était-ce de la viande de mouton, hein, phosphorescent, va savoir, ou alors du cheval, si elle s'était approvisionnée chez Spanghero. Mais vous aurez bien évidemment reconnu dans l'extrait sonore la plus déjantée des charts, Lady Gaga. Eh bien, la chanteuse américaine, elle est tout à fait sérieuse. Oui, oui, ça lui arrive. Elle est devenue un sujet d'études sociologiques. Puisque depuis 2011, l'Université de Caroline du Sud propose en effet à ses étudiants un cours intitulé « Lady Gaga et la sociologie de la célébrité ». Alors selon le professeur en charge de ce cours, Mathieu Deflemme, oui le nom ne s'invente pas, à l'origine de ce cours, eh bien, l'ascension fulgurante de cet artiste offre, je cite, « une matière sociologiquement pertinente pour étudier la culture populaire et les conditions actuelles de la célébrité ». Le professeur Deflemme, spécialiste reconnu du terrorisme et des relations internationales, oui, de prime abord, pas grand-chose à voir avec l'interprète de Judas et de Bad Romance, eh bien, le professeur Deflemme, il a, vous l'imaginez, de nombreux détracteurs, et il leur répond encore, il argumente, il dit « Non, non, ce cours, c'est l'occasion, je cite, d'étudier les conditions qui ont rendu possible la notoriété de l'artiste dans une société très différente de celle des décennies passées. » Bon, alors les deux explications, ça fait un peu prétexte bidon. Et devant un jury de thèse, pas sûr que ça tienne. En fait, le mec, il veut juste se faire son kiff. Lui, c'est un fan assumé de Lady Gaga. Et là, j'invente pas, hein, il l'a rencontré 5 fois. Et il l'admire tellement qu'il est allé la voir 29 fois en concert. Et ce cours, d'ailleurs, ben, c'est pas le seul du genre, puisque depuis les années 2000, il n'y a pas de quoi s'étonner. Surtout dans le monde anglo-saxon, eh bien, les films, les séries et même la musique pop ont investi les universités. Citons toujours aux États-Unis l'université de Georgetown qui propose des cours de philosophie dédiés à l'univers de la série télévisée Star Trek, ou encore le master Beatles, musique populaire et société, proposé par l'université de Liverpool, oui ça se comprend, voire le cours très sérieusement intitulé Les Simpsons et la philosophie à Berkeley, sans oublier l'université de Frostburg dans le Maryland qui s'intéresse quant à elle au lien entre magie et science à travers les films Harry Potter. La recherche produira-t-elle un jour un balai volant? Un chien à 3 têtes peut-il s'expliquer par la génétique? Ouais, ça c'est un peu le genre de problématique des mémoires des étudiants de Frostburg, pour vous donner une idée. Et oui, là vous êtes en train de vous dire, comme moi, mais pourquoi je ne suis pas dans cette université-là? Et surtout, pourquoi mon mémoire est si chiant? C'est ainsi que se termine ce tour du monde express et insolite. Le temps de remercier Antoine à la technique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vol pour une destination à contre-courant du traitement rebattu de l'actualité internationale par les médias traditionnels. Et surtout, vous aussi, n'oubliez pas de regarder le monde tourner. Mmh.